VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par les retombées en Afrique, des nouvelles mesures américaines sur l'immigration. Un véritable casse-tête pour les ambassades africaines aux États-Unis. Dans deux directives, le secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly, a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une politique qui inquiète dans les milieux d'immigrés africains. Au micro de Bagassi Koura, la réaction de Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington.
L'administration américaine aujourd'hui est dans une phase de transition, c'est-à-dire que ceux avec qui nous parlons, aussi bien au département d'État qu'au ministère du Homeland Security, que j'appelle ministère de l'Intérieur, ce sont ces gens-là qui gèrent les déportations. Les cas américains que nous rencontrons à ces niveaux-là sont eux-mêmes un peu dans l'incertitude. Et donc eux et nous discutons de notre volonté à nous qu'ils tolèrent nos concitoyens et leur totale incapacité vis-à-vis des nouvelles mesures venant des nouvelles autorités que eux-mêmes découvrent en même temps que nous tous. Alors donc, nous sommes vraiment dans une phase d'expectative pour tout le monde et j'espère seulement que l'Amérique est aussi le pays de la loi, c'est le pays du règne de la loi, c'est le pays du règne de la tolérance. Donc nous croisons les doigts, nous attendons, mais évidemment nous sommes très inquiet pour nos populations.
Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington. En Guinée, suspension de la grève des enseignants et réouverture des classes aujourd'hui après 3 semaines de fermeture. Le gouvernement fait état d'un accord avec les syndicats. Le Nigeria cherche à rassurer la population sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari, dont le séjour en Grande-Bretagne pour raisons médicales a été prolongé. Les autorités nigériennes affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Jacques Aristide.
Cela fait plus d'un mois que le président Buhari se trouve à Londres. Au Nigeria, son absence, qui devait à l'origine durer une dizaine de jours, provoque des doutes sur sa santé et alimente les craintes d'une crise politique. Mais pour son porte-parole, il ne s'agit que d'un repos médical. Femi Adesina a indiqué hier à Abuja que le chef de l'État avait besoin d'une plus longue période pour récupérer, telle que recommandée à la lumière des examens médicaux, et d'assurer que cette prolongation ne doit inspirer au peuple nigérian aucune raison d'inquiétude, sans toutefois préciser quand le président sera de retour. En attendant, l'ancien général de 74 ans a transmis les rênes du pouvoir au vice-président Yemi Osinbajo dans un pays où prévaut en ce moment un climat national tendu, marqué par une grave récession économique.
Amnesty International dresse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2016. Coup de projecteur dans ce domaine en Afrique avec Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons vécu une année où des gouvernements ont montré une réelle volonté de réprimer de manière assez régulière et assez systématique les différentes formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., y compris dans des pays qui sont considérés comme des pays plutôt démocratiques ou en tout cas qui ont montré des progrès et des alternances politiques relativement pacifiques. Dans ces pays, dans quasiment chaque pays de la région, nous avons vu des manifestations qui ont été interdites en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, etc., ou qui ont été réprimées avec parfois des morts. Le Burundi, évidemment, avec la situation extrême qui a prévalu suite aux tensions qui entouraient la question du troisième mandat, une répression féroce qui s'est abattue sur l'opposition, sur la société civile et sur les journalistes également, et malheureusement une situation extrêmement tendue avec par ailleurs le Burundi qui s'est retiré de la CPI, donc avec des chances très minces pour les Burundais qui ont été victimes des violations de pouvoir obtenir justice un jour.
Samira Daoud d'Amnesty International. En Afrique du Sud, la Haute Cour de justice a jugé ce mercredi contraire à la Constitution la décision du gouvernement de se retirer de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye. Pretoria a notifié la CPI en octobre de sa décision de cesser d'y siéger, estimant que sa présence était incompatible avec la législation sud-africaine. L'Alliance démocratique d'opposition avait déposé un recours contre cette décision et c'est justement sur ce recours que la Haute Cour s'est prononcée aujourd'hui. On ignore pour l'instant si le gouvernement sud-africain entend faire appel de cette décision.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
République démocratique du Congo, le M23, le mouvement du 23 mars, représente une menace actuelle dans le pays, a affirmé l'ONU après des rumeurs de retour dans le Nord Kivu d'ex-combattants de cette rébellion défaite en 2013 par l'armée congolaise. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui de Goma, capitale du Nord Kivu, le général Bernard Comens, chef adjoint des casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. La MONUSCO suit avec une attention extrême cette situation. Elle dispose de multiples indices et des informations qui parviennent de manière soutenue aux casques bleus, indiquant que d'ex-combattants du M23 ont traversé la frontière, a précisé le général Comens lors d'une conférence de presse ce mercredi. Des missions de reconnaissance aérienne ont permis de confirmer un certain nombre de choses, a déclaré le général français sans donner d'autres détails. Libre circulation des personnes dans la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les commerçants et transporteurs camerounais qui vendent des produits vivriers au Gabon espèrent la fin des tracasseries qu'ils subissent sur le tronçon Yaoundé-Libreville, surtout après l'engagement pris par les présidents du Gabon et de la Guinée équatoriale d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants des autres pays de la zone CEMAC. Le point à Yaoundé avec notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
C'est l'heure du départ pour le Gabon. Nous sommes au lieu dit marché 8e à Yaoundé. Une camionnette bondée de sacs d'oignons se détache de la file d'engins lourds stationnés ici depuis des heures. Des grandos, le chauffeur de bord qui nous répond est un Camerounais. Une fois par semaine, depuis 6 ans, ils viennent transporter des vivres frais au Cameroun pour les revendre sur les marchés du Gabon. Pour ce énième voyage du Jar, de Grando sait déjà ce qu'il attend sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
J'ai la carte de séjour du Gabon et à la frontière, on m'exige toujours le visa. Je suis Camerounais, j'ai une voiture gabonaise. Dès que je suis au Cameroun, on me traite de Gabonais. Les Camerounais ne gèrent pas la route comme moi. Si le Camerounais donne 500, je vais donner 1000 francs au côté du Cameroun. Parce qu'on dit que c'est la voiture gabonaise.
Ces griefs qui entravent la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, M. Etundi a fini par s'y accoutumer. Au lieu dit marché du Fundi à Yaoundé, Etundi achète chaque lundi des vivres frais qu'il empile dans un camion. Le lendemain, aux premières heures, sa livraison prend la direction du Gabon. Après 15 ans d'activité, l'homme d'affaires dit faire face aux mêmes difficultés sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
Pour un camion qui a l'immatriculation gabonaise, quitte d'abord le Gabon pour le Cameroun. Quand il traverse déjà, il doit acheter ce qu'on appelle le passe-avant. On te signe un papier au niveau de la douane. Ce papier, nous l'achetons à 25 000. Ça n'exclut pas qu'on vous en a. Vous savez bel et bien que la route coûte cher. Les camions qui chargent le Gabon, vous allez voir un gros chargement qui dépasse même le poids du véhicule. Nous, les commerçants, on ne peut pas s'en sortir. Si jamais il faut se charger, selon le tonnage du véhicule, quitter avec le camion rien que ici, Yaoundé, pour Libreville, c'est 650 000. Donc ça voudrait dire le carburant, la police, la douane. Et de l'autre côté là-bas, à chaque contrôle là-bas, il faut payer au moins 10 000.
L'engagement des présidents Ali Bongo du Gabon et Théodore Obiang de la Guinée équatoriale vendredi dernier a appliqué la libre circulation intégrale des personnes pour tous les ressortissants de la zone CEMAC devrait changer la donne actuelle, à condition de se pencher sur l'urgence. Professeur Raymond Ebalé, enseignant d'histoire économique à l'université de Yaoundé 1.
Il va falloir que les pays de l'Afrique centrale se mettent maintenant au travail pour mettre en place des mécanismes qui rassurent, c'est-à-dire que l'Afrique centrale mette en place un système centralisé de vérification, n'est-ce pas, de l'identité de personne. 19 points de contrôle entre la frontière du Cameroun et la ville de Libreville. Je pense que ça doit pouvoir cesser. Il va falloir maintenant éduquer les policiers, leur faire comprendre que maintenant nous sommes dans une dynamique de circulation libre.
Les commerçants et transporteurs camerounais du tronçon Yaoundé-Libreville disent vouloir d'abord voir les choses changer avant d'y croire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Somalie, le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed doit prêter serment aujourd'hui à l'aéroport de Mogadiscio, l'endroit le plus sécurisé de la capitale, où s'était d'ailleurs déroulée son élection le 8 février, pour prévenir une attaque des islamistes Chebab qui ont promis de lui mener une guerre sans merci. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.